Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10€ vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cindy. Donc Cindy, tu as 36 ans, tu es la fondatrice de Curcuma Box, le blog depuis 3 ans, et maintenant des box. Donc ça, c'est ton projet depuis qui prend forme depuis 6 mois. Et donc ce sont des box qui permettent de s'orienter vers un mode de vie plus sain, notamment au sujet de la nourriture, des activités physiques, de la gestion du stress... etc. Avant, tu étais modéliste chez Bâche, et en fait, il y a 4 ans et demi, tu as été malade, tu as eu un cancer du sein, alors que ta fille, ta petite fille Louise avait 1 an. On va parler aujourd'hui de ton vécu de la maternité, et aussi à la lueur de cette épreuve que tu as eue il y a 4 ans et demi. Et donc, tu es en rémission depuis 4 ans, c'est ça?
Depuis 4 ans et demi, ouais.
Depuis,
ouais. Les mois sont importants pour le calcul de la rémission.
D'accord, tu nous expliqueras ça,
ça pendant le
podcast. Pour commencer, en fait, à parler de ton vécu de la maternité, comment est-ce que tu as appréhendé ton rôle de maman? Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants?
Alors, j'ai pas toujours eu envie d'avoir des enfants. Enfin, je sais que j'avais beaucoup de copines autour de moi qui voulaient être mères depuis qu'elles avaient 15 ans, enfin même depuis plus petite encore. Ma fille même veut déjà être maman, alors qu'elle n'a que 5 ans, ça me fait un peu peur. Mais non, moi c'est venu progressivement en fait, et j'ai trouvé la bonne personne et qui m'a donné l'envie. Et après, je suis tombée enceinte et là, ça a été quand même une grosse révélation pour moi.
Ah ouais?
Ouais.
Et du coup, elle s'est déroulée comment ta grossesse?
Alors, ma grossesse a été un peu chaotique.
Ouais.
j'ai beaucoup souffert.
Ouais.
J'ai eu beaucoup de nausées. Quand j'ai accouché, je pesais moins que quand je suis tombée enceinte.
Ah ouais?
Donc, ouais, c'était assez
compliqué. T'as eu des nausées tout le long de ta grossesse?
Jusqu'à 6 mois, facile. Ouais, j'étais un peu un zombie.
D'accord.
Parce qu'on me voyait au travail, je suis d'habitude très enjouée à faire plein de petites blagues. Et là, là non, il n'y avait plus de, plus de joie en moi.
Ouais.
Mais j'étais mal physiquement. Après, j'étais très contente d'être enceinte.
Bien sûr. Ouais.
Mais c'était pas
oui,
très simple.
Des nausées qui durent, oui, c'est sûr que c'est
ouais,
difficile.
On m'avait dit, dans 3 mois, ça va s'arrêter. Mais
oui.
Ça ne s'arrêtait pas. Alors du coup, je ne comprenais pas.
Et t'as eu des petites techniques, non, pour calmer
bah,
ça
ou... Des petites techniques, j'arrivais pas à manger, en fait. Déjà, ça, c'était
ouais.
compliqué. Hein.
Après, ouais.
J'angoissais un peu de me dire est-ce que le bébé va avoir ce qu'il faut, mais oui. Je sais que le bébé prend de toute façon ce dont il a besoin. Et non, bah, les techniques, c'était de me reposer
ouais.
essentiellement et de prendre sur moi beaucoup.
D'attendre que le temps passe.
C'est ça, voilà, attendre que le temps passe, exactement.
Et comment se sont déroulés tes premiers mois de maman, donc avant la découverte de ta maladie?
Alors, j'ai eu de la chance d'avoir un bébé très facile, donc ça, c'était cool. L'accouchement était un peu moins cool parce que ça a fini en césarienne et que
ouais.
je m'y attendais pas forcément. Donc là, on se découvre... enfin, c'était un peu un monde parallèle, cet accouchement. Et donc, j'accouche par césarienne et on me montre l'enfant 2 secondes
ouais.
et ils repartent avec. Et là,
ouais.
je dis non, par contre, donc je me mets à pleurer et à trembler à cause de l'anesthésie. T'es dans un état pas possible. Et les infirmières voyant ça disent « Il faut lui ramener le bébé, vite
ouais.
La maman va pas bien !» Donc hop, ils me ramènent le bébé. Et dès que j'ai posé mes yeux dans les siens, en fait, là, ça a été
ouais.
incroyable. Je me suis pris la maternité vraiment pleine figure.
Ah ouais, tu t'es sentie devenir maman
complètement.
Tout de suite.
Ah ouais, rien qu'en posant mes yeux dans les siens, enfin, t'es submergée d'amour, c'est incroyable. C'est une sensation de dingue.
Et comment ça se passe en fait, parce que moi j'ai pas eu une césarienne, mais comment ça se passe? Donc on prend le bébé pendant qu'on s'occupe de toi, c'est ça?
C'est ça, en fait pendant 16 heures il y a eu une tentative d'accouchement, mais elle était mal inclinée donc elle ne sortait pas. Et vu que j'avais une péridurale, on m'a emmenée en césarienne sans me faire d'anesthésie générale. Tout le bas était anesthésié. Et j'ai un drap devant le ventre et on sort le bébé. Et là, on passe devant le drap, hop, on le monte vite, vite fait, quoi. Et,
ouais.
Et puis hop, ils repartent avec pour lui faire les soins. Mais ouais. Moi, ouais. C'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais ouais. l'avoir sur moi. Enfin, ouais. après 9 mois,
bien sûr,
ouais. tu la veux, quoi. Et donc, donc ils ont vite fait marche arrière, quand même. c'était juste pas possible.
Ouais.
Le papa qui sait que je pleure pas beaucoup, ils disent ouais. pas possible, c'est pas ma femme. qui est-ce qui pleure? Du coup, ils me l'ont ramené, ouais. Et j'ai pu faire. Enfin, c'est plus compliqué, hein, la césarienne, que l'accouchement.
Ouais, tu peux pas vraiment faire un pot à pot. Ou...
Non, ça vient après. Alors que toi, tu le veux tout de suite. Mais ça vient un peu après.
Faut patienter un peu.
Ouais,
quoi,
c'est ouais. ça. C'est D'accord. le papa qui a fait le pot à pot. Donc, il était content.
<C'est ça.
rire> Il savait pas trop comment faire, mais.
Et après, comment ça s'est passé, enfin voilà, tes premières semaines, la découverte de ce rôle de maman, quoi, en gros, quoi.
Bah après c'est marrant hein, c'est tu reviens dans ton quotidien, dans ta maison, mais tu sais que plus rien n'est comme avant. Tu t'es un peu sur un nuage en fait hein, c'est un peu une période complètement à part. Enfin moi à chaque fois que je vois une femme enceinte aujourd'hui, je sais que voilà, elle est en train de vivre vraiment une bulle qui l'isole du reste du monde quoi, c'est ouais. un truc complètement particulier. Et donc tu rentres chez toi, donc le papa est en congé paternité aussi et là t'es pendant ces 11 jours, là, t'es en famille, complètement recroquevillée sur toi-même.
Ouais, t'es dans ton cocon.
C'est ça, un petit cocon. Non, enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. En plus, c'est un bébé facile que j'ai allaité pendant 6 mois et tout s'est bien déroulé.
Du coup, c'est quand elle avait 1 an qu'on t'a diagnostiqué un cancer du sein, en fait, c'est ça?
Alors oui.
Comment ça s'est passé, en fait, pour que tu nous expliques? C'est toi qui as senti, en fait, qu'il y avait quelque chose
Alors, je l'ai allaité donc pendant 6 mois. Et je sentais à la fin de l'allaitement une grosseur dans le sein, mais enfin alors, j'étais vraiment pas inquiète du tout et ouais. à milieu de me poser une quelconque question et faire aucun rapprochement avec le cancer en fait. Bah j'ai quand même été voir mon gynécologue qui m'a dit non bah ça doit être un canal lactifère bouché, pas de panique. Donc on m'a quand même fait faire des échographies qui donnaient rien. Le temps passe, le temps est passé parce qu'il y a eu 6 mois quand même entre le moment où j'ai senti la grosseur et le diagnostic. Et donc j'ai fait des échographies, des mammographies, j'ai vraiment fait beaucoup d'examens, on me disait que c'était rien. Donc il faut quand même insister un peu des fois.
Oui, c'est toi qui étais à l'origine des demandes en fait.
Ah oui, parce que je sentais bien que ça grossissait quoi. J'ai en plus une petite poitrine donné, ça me prenait la moitié du sein, donc clairement quelque chose qui allait pas. Et un gynécologue s'est un peu plus penché dessus et m'a fait faire une biopsie. Donc là, la biopsie était très claire. Et c'était pas cool.
Qu'est-ce que t'as ressenti en fait quand t'as eu cette nouvelle, notamment par rapport à, au fait d'avoir ta fille en fait?
Bah en fait c'est ça qui est hyper paradoxal parce que bon t'apprends donc déjà le sol se dérobe sous tes pieds, t'apprends une nouvelle à laquelle tu t'attends pas, t'as pas de cancer dans la famille, t'as 30 ans, t'es jeune maman, bon c'est voilà, le ciel te tombe sur la tête et on te dit t'as ta fille, c'est ta force, donc oui ma fille c'était ma force mais c'était aussi à la fois ma plus grande faiblesse dans le sens où j'étais terrorisée de la laisser. C'est ça qui me paniquait le plus, en fait. Au-delà de la peur de mourir, parce qu'aujourd'hui, quand on te dit cancer, tu fais le rapprochement égal mort tout de suite.
Oui,
mais au-delà de ça, moi, c'était la peur d'abandonner ma fille réellement. Et ça m'a collé, vraiment collé au bide pendant de longs mois. J'ai vu quelqu'un qui m'a aidé, à me libérer un peu de cette peur, mais c'était très dur à gérer. Très dur. Vu que j'étais jeune, le cancer était agressif, on m'a fait la totale, donc j'ai eu la chimio, j'ai eu une chirurgie et j'ai eu des rayons. Et pendant la chimio, t'es hyper fatigué, hein, donc c'est compliqué. En plus, tu culpabilises parce que tu te dis, je suis là dans mon lit en train d'agoniser et je suis pas là pour ma fille, même si j'étais quand même relativement active et quand même en forme malgré tout. Il y a quand même des périodes de gros down où t'as du mal, quoi. Et le pire, c'était tous les matins, elle m'appelait, là, elle commençait à parler, maman, et je me disais, non, mais maman, un jour, elle viendra plus, quoi. Et ça, ça me retournait le bide encore maintenant, ça me retourne le bide.
Comment tu t'es organisée, en fait, pour vivre ton rôle de maman pendant cette période, en fait? T'as eu, donc, la chimio, ça, c'est en ambulatoire, entre guillemets, c'est ça, tu rentrais chez toi?
C'est ça.
En revanche, quand t'as eu ton opération, t'as été hospitalisée à l'hôpital, non, c'est ça?
L'opération a été hospitalisée. Après, c'est rapide. Hein. C'est pas une opération du foie ou d'un organe vital. Donc, ça va relativement vite. Après, moi, j'ai la chance d'avoir mon mec, quoi, qui a assuré de A à Z. Il a tout pris en charge, il a tout pris sur lui. Il n'y a aucun moment, il m'a fait sentir que j'étais malade ou que élever sa fille, ça lui pesait ou qu'il avait peur de me perdre. Enfin. J'arrivais quand même à gérer. Parce que, au-delà du quotidien famille, il y avait aussi le boulot. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est assez...
T'avais repris le boulot, en fait, à ce moment-là.
Non. Dès que je pensais pouvoir continuer, mais dès que la chimio a commencé, je me suis arrêtée. Parce que c'était pas gérable, pour le coup. Mais j'ai des boss, mes anciennes patronnes étaient top. Enfin, elles ont tout fait pour m'aider et me délester au maximum de toute charge. Parce que c'est problématique, ça, pour certaines femmes, ou certains hommes même. Hein, le cancer et travail, ça fonctionne pas toujours très bien. C'est pas toujours très bien accueilli dans le milieu du travail. Donc,
là, en fait, elles t'ont dit « prends ton temps et après tu reviendras ».
Prends ton temps, tu gardes ton salaire en intégralité, tu te soucies de rien. Alors qu'il y a des boîtes vachement moins cool qui te font sentir clairement que t'as un poids pour eux et que ça peut pas t'aider, ça.
Du coup, il y avait cette partie-là qui était
libérée. Voilà, c'est un souci en moi, en fait. Ouais. C'est hyper important parce que financièrement, ça suit quand même. Puis t'as pas à te poser de questions si tu vas retrouver ton job ou pas. Donc ça c'est un point qui a roulé tout seul pour moi et je mesure la chance que j'ai eue. Et puis au niveau familial, j'ai été très entourée, donc ça m'a aidée. Hein. Je sais qu'il y a des femmes qui vivent ça seules et c'est quand même très très compliqué.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as fait pour gérer justement tes angoisses à ce moment-là, notamment par rapport à ta fille, qu'est-ce que t'as mis en place?
Alors du coup, à ce moment-là, ma plus grande crainte, c'était de pas pouvoir la voir grandir, en fait, et de pas pouvoir, en tant que maman, jouer mon rôle de maman et la soutenir dans les périodes clés de sa vie. Je me disais, on n'a qu'une maman, quoi, même si la vie continue. Et j'ai ressenti le besoin de lui écrire, en fait, des petits cahiers. Donc, j'ai acheté plein de petits cahiers et j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, de mes ressentis du moment, de ce que j'avais envie qu'elle sache de moi, de plein de choses. Et ça m'a fait un bien fou, le travail d'écriture, moi, ça me libère souvent, ça me libère la tête. Puis mon mec me l'a dit à ce moment-là, il a bien vu que j'allais mieux, quoi. Je me sentais un peu plus zen par rapport à tout ça. Et donc ça, c'était un premier gros travail pour moi qui m'a fait énormément de bien. Enfin, je sais même pas si je lui donnerai un jour ses cahiers, on verra, on verra ce qu'il arrive. Et j'ai vu quelqu'un aussi qui m'a beaucoup aidée. Donc là, chacun, je pense, doit trouver la personne qui lui convient. Mm-hmm. Moi, c'est une femme qui prodiguait des soins énergétiques et avec laquelle je parlais énormément et qui a mis le doigt et qui m'a sorti des mots qui peuvent paraître anodins mais qui, moi, m'ont libérée en me disant mais que de toute façon, ma fille avait choisi aussi son chemin de vie. Donc, si son chemin de vie, malheureusement, c'était de perdre sa maman, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité, quoi. Donc, ça m'a libérée. C'est un effet magique. Je suis sortie de là, j'avais 3 tonnes en moins sur les épaules.
En une fois.
Incroyable comme... Enfin, 3 mots, hein. Ça tape pile là où il faut, en fait. C'est ce dont on a besoin, c'est ce qu'on a envie d'entendre, et ça nous propulse.
À ce moment-là, quoi.
Ouais, exactement.
Et sur l'écriture, en fait, tu l'écrivais tous les jours ou...
Alors, au début, j'écrivais tous les jours, oui. Parce que j'en avais besoin, quoi. J'ai tellement de choses à lui dire, et tout ce que je pensais, je le posais à plat, en fait. Et puis après, l'espoir revenant aussi, les traitements se déroulant bien. J'espaçais un peu, j'en avais moins besoin, j'étais plus avec elle. Petit à petit, j'ai même arrêté, j'écris plus maintenant. Je pense que je pourrais remettre le nez dedans... Quand ça me prendra, tu vois, les cahiers sont là, ils seront pas en sa possession avant un moment. Donc, je vais continuer. Je trouve ça bien. Je trouve que ça laisse une belle trace et que c'est des moments de vie, qu'elle pourra comprendre elle plus tard. C'est important.
Tout à fait, dans sa construction.
Ouais,
quoi.
Bien sûr.
Et du coup, j'imagine que cette épreuve a changé ton rapport à la vie. Tu l'expliques, en fait, d'ailleurs, dans ton blog. Est-ce que ça a changé ton rapport à la maternité? J'imagine que oui. Enfin, en tout cas, par rapport à avant, il y a peut-être eu un avant et un après dans ton rapport à la maternité.
Ouais. Déjà, il y avait un avant maternité et un après maternité, clairement.
Ouais.
Parce que avant, je savais pas si j'allais être une bonne maman et aujourd'hui, je sais que je suis une mère, donc voilà. Et la maladie, ça renforce beaucoup les liens, en fait. de fait, on est confronté à la mort quand on a une maladie grave. Mmh. Et je pense que ça, ça nous ouvre les yeux justement sur la vie. Et on en prend toute l'ampleur et toute la saveur chaque jour. Et ça, c'est un peu cliché, certes, mais ça fait du bien quand même.
Tous les jours, tu y penses, tu te dis...
Pas tous les jours maintenant, mais très souvent.
Ouais.
Dès qu'il y a un petit problème qui m'irrite, qui devrait pas m'irriter parce que c'est pas grave, j'y pense, ouais, clairement. C'est là dans ma tête en permanence. Mm. J'arrive à relativiser beaucoup de choses.
Et par rapport à, justement à ton vécu de maman, est-ce que ça a un impact dans ton quotidien, dans les décisions que tu prends par rapport à elle ou même dans les décisions d'éducation?
Ouais, c'est un impact. Bah, déjà, la maladie laisse des traces parce que... Si j'avais pas eu la maladie, peut-être que Louise aurait déjà un petit frère, une petite sœur. Ça, on verra ce que la vie nous apporte. Mais donc déjà, ça impacte un peu la vie familiale, forcément. Mm-hmm. Et dans mon rapport avec ma fille, oui, parce que je pense savoir ce dont elle a besoin pour bien grandir aussi. Donc ça m'aide dans son éducation. De l'orienter sur des choses qui sont bonnes pour elle, sans être trop intrusive, ça aussi, c'est compliqué de trouver le bon dosage. Au début, j'étais tellement terrorisée que j'en faisais 10 fois trop. Donc j'étais trop dans le contrôle. Et là, j'ai complètement lâché et ça fait du bien. Complètement lâché tout en essayant de l'aiguiller comme il faut.
Est-ce que tu penses qu'elle s'est... parce que des fois, en fait, on peut entendre ça. Est-ce que tu penses qu'elle s'est inquiétée pour toi, même à 1 an? Est-ce qu'elle a ressenti des choses?
Alors, je pense, de toute façon. Moi, j'ai une anecdote assez incroyable. Mm-hmm. Quand c'était la veille de mon PET scan. Donc, le PET scan, c'est le scanner général du corps qui va te dire, en gros, si t'es pourri de l'intérieur ou si c'est localisé...
Ouais.
Donc autant te dire que j'étais dans un état de stress pas possible. C'est pire que les résultats du bac, hein. Là, tu joues avec ta vie. Donc et ce jour-là, elle nous a fait une gastro, enfin c'est pas une gastro, mais un vomissement une nuit incroyable. C'est une petite qui est rarement malade, qui avait jamais fait ça. Et en fait, je pense qu'elle a ressenti mon stress fois 1000, quoi. Elle nous a fait une gastro mais fulgurante, et le lendemain plus rien. Moi, j'avais les résultats, je savais que le truc était localisé, je me suis mise à respirer un peu, et elle, c'était fini. Guillerette, comme si rien ne s'était passé, et là, je me dis, il y a vraiment une connexion entre les enfants et nous, quoi, c'est évident.
C'est des éponges...
C'est des éponges à émotions,
ouais. Ouais.
Et là, quand elle joue, des fois, elle dit « Ah, bah non, moi, je peux pas, parce que ma maman a un cancer du sein ». Je dis quoi?
Ah oui, elle le dit encore.
En ce moment, elle le dit, là. Je dis, alors je prête l'oreille. Ben, en fait, elle m'entend beaucoup parler et ça, c'est quelque chose qui ressort assez souvent.
Ouais.
Je dis, mais alors, dis-moi un peu plus. Qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, bah oui, un cancer du sein. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, bah je sais pas. Je dis, bon, d'accord. Donc, elle entend des choses qu'elle répète. Elle sent qu'il y a un petit côté grave derrière, mais elle sait pas trop. Après, elle me voit nue, elle voit mon corps, elle voit que j'ai une cicatrice. Elle me pose des questions et je lui réponds très ouvertement.
Parce qu'en fait, t'as eu une ablation, c'est ça?
Ouais.
D'accord.
Donc, elle me dit, mais maman, pourquoi t'as qu'une gougoute? Je dis pas. Bon, bah écoute, j'ai eu un bobo à l'autre et on me l'a enlevé. Je dis, mais aujourd'hui, ça va. Puis là, elle repart jouer. Enfin, tant qu'elle sent que dans mes yeux, tout va bien.
Oui, c'est ça.
Elle est rassurée.
Ouais. Et justement, en fait, une question que je pose très souvent, en fait, dans le podcast, c'est quel est ton rapport à ton corps de maman? Donc toi, en fait, t'as un double, je pense, nouveau rapport à ton corps suite à ta maternité. Il y a le rapport suite à la grossesse et suite à la maladie. Donc voilà, c'est quoi ton rapport à ton corps?
Du coup, c'est compliqué, ce corps.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un
corps de femme, de maman ou de malade. Non, bah bizarrement, mon corps aujourd'hui ne me pose aucun problème, quoi. Il est assumé à 100%. On parle beaucoup de reconstruction, hein, des femmes. Il y en a qui ont besoin de passer par l'étape reconstruction pour se reconstruire elles-mêmes. Parce que je comprends à 100%, on est toutes différentes. Et moi, j'ai juste plus envie qu'on me touche, en fait. Plus envie de bistouri, d'anesthésie. Ouais. Si prochaine grossesse il y aura pas d'anesthésie, parce que j'en veux plus, quoi.
Ouais.
Je veux qu'on me lâche le bistouri un peu.
Ouais.
Et du coup, je l'accepte. J'accepte plutôt bien cette transformation physique. Je pense que les cicatrices font partie de ton histoire de toute façon. Et j'en ai pas mal, des cicatrices. Ouais. Donc j'ai...
Oui, parce que t'as eu ta fille ensuite aussi en césarienne.
En césarienne, ouais. Et puis d'autres, trois autres joyeusetés. Mais
ouais,
mais ouais, du coup...
Donc c'est un rapport apaisé que t'as avec ton
complètement.
Corps aujourd'hui, quoi.
Ouais.
D'accord.
Très apaisé, rapport à mon corps, rapport à la vieillesse aussi. Où avant, quand j'étais jeune, je disais, mieux vaut vivre fort. De toute façon, je ferais pas une belle petite vieille. Et puis aujourd'hui, je suis sûre que je serais une excellente petite mamie, quoi. C'est tout ce que je souhaite, en tout cas. Donc ouais, le rapport à la vie et au corps est complètement différent.
Mmh. Tu disais qu'en fait ton conjoint t'avait beaucoup aidé pendant cette période. Enfin, du coup, souvent on se pose la question quand on a un enfant de comment vont s'articuler les rôles. Est-ce que ça se fait naturellement? Enfin, comment ça se fait entre le papa et la maman? Et toi, du coup, ça a été quand même impacté par cette épreuve. Donc, comment sont répartis vos rôles vis-à-vis de ta fille? Comment vous avez vécu ça? Et aujourd'hui, comment tu gères ça?
Bah déjà, on est un couple plutôt... Il n'y a pas vraiment et la femme d'un côté et l'homme de l'autre. Donc, tout est très mixé. Et c'est vrai que l'arrivée de l'enfant, c'était toujours pareil, en fait. Moi, je l'allaitais. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour le père de trouver sa place. Mais quand je devais l'allaiter en pleine nuit, par exemple, c'est lui qui allait me la chercher, me la porter. Et puis, c'est lui qui lui apportait aussi les soins à côté, le bain, les couches. Enfin, il mettait la main à la pâte à 100%, quoi. Et je pense que la maladie, oui, malgré tout, changeait quelque chose. Enfin, lui, ça a dû le rapprocher aussi de sa fille, parce qu'à un moment donné, forcément, tu te projettes dans le pire et te dire, s'il n'y a plus la maman, qu'est-ce que je vais me retrouver avec ma fille, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et bien sûr, il me l'a pas dit, mais enfin, moi, je me mets à sa place. C'est des questions que tu te poses automatiquement.
Bien sûr.
Donc, ouais, je pense qu'il y a un lien plus que charnel entre eux. C'est un lien très fort. Et non, on a tous, on a notre équilibre.
Ouais, du coup, vous avez une espèce de polarité à trois.
Complètement, ouais. Ouais. Bah, la vie de famille à trois, ouais, c'est, je trouve que c'est un bon équilibre. Mm. Après, je suis sûre qu'à quatre et à cinq, on s'en sort aussi, hein, sans problème. Mais je trouve ça sympa. C'est assez facile.
Ouais. C'est peut-être des choses auxquelles tu as réfléchi quand tu as écrit dans tes carnets, etc. Quelles sont les valeurs essentielles que tu souhaites transmettre à ta fille?
Alors, j'en parle beaucoup avec elle, hein, parce que l'école, c'est vraiment là la phase maternelle, la phase d'apprentissage de tout, de la vie. Moi, je sais qu'à l'école, par exemple, j'étais un Saint-Bernard. C'est-à-dire qu'en maternelle, tous les opprimés, j'allais les aider, je supportais pas l'injustice. Je vois que ma fille est pareille un peu. Elle va aider les plus petits et toutes les maîtresses me le disent à chaque fois. Mais c'est une des seules qui nous aide quand il y a des plus petits dans la classe. Donc j'aime qu'elle ait, moi, ce côté altruiste et bienveillant envers les autres. Et tout ce que je veux lui apprendre, moi, c'est la bienveillance, justement. Être à l'écoute des autres, parler dans le dos des autres, faire des trucs qui n'ont pas de sens. Et puis voilà, après, ça va plus loin dans sa vie, son hygiène de vie au quotidien. Je lui apprends à se bouger. Je dis, là, tu te fais plaisir, tu manges des bonbons et tout. Alors maintenant, allez, on va au parc. il faut se bouger, quoi. Donc, j'ai envie qu'elle soit épanouie, qu'elle arrive à parler avec nous de tout. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, donc on est contents. C'est mieux.
En quoi, en fait, ta relation avec ta propre mère impacte ou pas d'ailleurs ton vécu de la maternité?
Alors, c'est une question compliquée. Non, moi j'ai une famille plutôt cool, hein, donc ils m'ont appris à grandir librement, donc ça c'est plutôt important. J'ai jamais été élevée comme une fille, en fait. J'ai un frère, mais il n'y a pas eu de séparation, le garçon, la fille, non, au contraire. J'étais en plus un garçon manqué, donc on m'a laissé libre cours à mes bêtises. Donc ça c'est plutôt chouette, et du coup... je pense pas qu'on ait la même façon d'élever nos enfants avec ma mère. On n'est pas. Ma mère est plus en retrait. Elle se met plus en retrait derrière mon père. Je sais qu'elle fait énormément de choses pour nous, mais elle aime pas se mettre en avant. Et moi, ma fille, j'hésite pas à lui faire des bisous, à la saouler de câlins. C'est pas le même rapport à la maternité. C'est deux rapports différents, mais qui sont sains tous les deux. Hein, donc plutôt. Plutôt bien comme base.
C'est clair. Et par rapport à ta vie professionnelle, donc là, en fait, du coup, tu es en train d'opérer un virage à 180 degrés dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu penses que la maternité aussi joue un rôle, en fait, dans ce virage professionnel? Enfin, voilà. Est-ce que...
Ça joue un rôle parce que le fait d'être entrepreneur, donc c'est pas simple, hein, c'est beaucoup de boulot. Toi-même, tu sais. Ouais. Mais, du coup, ça m'a permis, en fait, moi, de gérer mon planning. Et ça, je voulais absolument avoir du temps à dédier à ma fille. Donc le mercredi après-midi, c'est dédié à ma fille. Des fois, non, mais c'est la plupart du temps incompressible, quoi.
D'accord.
C'est du temps pour ma fille. La récupérer à l'école, pouvoir l'emmener, lui préparer son goûter. Enfin, tout ça fait partie de ma décision aussi d'avoir la gestion de mon temps, quoi. Ce qui est chouette quand tu es entrepreneur. C'est des journées intenses, mais au moins tu gères ton planning. Et du coup, oui, après, dans tout ce que je fais, dans la globalité du projet, j'ai une notion aussi très, très forte pour les enfants. Parce que là, j'écris donc des petits livrets santé, conseils alimentaires et autres. Et je sais que la santé, ça commence dès le plus jeune âge. Si dès petit, dès l'âge de ma fille, là, si tu apprends les bonnes bases, ça se répercutera tout au long de ta vie.
D'accord.
Même si à l'adolescence, elle me dit, bon, tu me saoules avec, avec ton granola, là, je vais aller manger des McDo, ok, mais
ouais.
Au moins, je sais que ça reviendra. Quoi qu'il arrive, quand elle-même aura des enfants, je suis persuadée qu'elle aura
les
bonnes bases.
Et alors, du coup, c'est quoi les bonnes bases?
Les bonnes bases, c'est de savoir ce qui est bon pour toi. Donc, souvent, ma fille est très gourmande et elle mange clairement avec sa tête et pas avec son ventre, quoi.
Ouais.
Donc, je lui dis, apprends à écouter ton ventre, oui, c'est ça. Son ventre sait quand il a plus faim, quoi. Tu sais, ta tête en a envie, mais toi, tu dois pouvoir te stopper toute seule. Faut que t'écoutes ton corps, que tu sois à l'écoute. Donc on lui apprend, elle lit beaucoup de livres, et c'est elle qui les réclame en plus, elle aime ça, sur le corps humain. Donc elle sait que voilà, l'aliment passe dans l'œsophage, et après digéré dans l'estomac. Elle sait les aliments qui vont pas lui faire du bien aux intestins, parce qu'elle est née par césarienne, elle a les intestins fragiles. Donc il y a beaucoup d'aliments qui vont la faire ballonner, et elle le sait tout ça. Donc elle a compris beaucoup de choses sur la santé. Et elle me pose des questions, mais maman, comment ça se passe à l'intérieur? Elle devient quoi, ma cerise? C'est cool, c'est hyper intéressant.
Est-ce qu'il y a des choses justement qu'il faut éviter, ou des choses que tu bannis en fait de son alimentation? Et puis comme tu dis, peut-être que adolescente, elle reprendra, en tout cas voilà, si tu pouvais nous donner quelques petits conseils.
Ouais, bien sûr. Au début déjà j'étais trop rigide, hein, donc le conseil c'est de pas être rigide. Ça c'est clair, parce que c'est le meilleur moyen de pousser les enfants à des comportements déviants, quoi. Anorexie, boulimie, il faut les laisser. Donc ça, j'ai appris de mes erreurs aussi, hein. Et aujourd'hui, c'est très individuel, hein, l'alimentation.
Ouais.
Donc je sais qu'elle a les intestins fragiles. Pour les enfants, faut faire très attention aux fruits. On a toujours ou aux tomates. La tomate est un fruit.
Ouais.
Et on se dit toujours, quand il y a une petite tomate qui traîne dans l'assiette, tiens, ça lui fait sa dose de légumes dans l'assiette, c'est bien.
Ouais.
Sauf que non, c'est pas des légumes, c'est un fruit. Et la tomate mélangée au reste de l'assiette, c'est très indigeste. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à digérer pour un enfant. Les jus d'orange pendant les repas, tout ce qui est fruits pendant le repas, c'est compliqué. Les fruits, c'est au goûter.
D'accord.
Quand l'estomac est vide, là les fruits s'assimilent parfaitement bien. Faire des petits jus de légumes aussi, ma fille adore ça et ça lui fait sa dose de vitamines et d'oligo-éléments, ça c'est top.
Tu lui donnes quand en fait les jus de légumes?
Les jus de légumes à 17h, mais alors les jus de légumes, on dit qu'un bon jus de légumes c'est 70% de légumes, 30% de fruits. Donc ça va être un jus par exemple de carotte, orange, curcuma par exemple.
Ouais.
Et ça elle adore, parce que t'as le petit goût de l'orange acidulé, c'est top. Et après je pousse un peu plus loin, des fois je mets du céleri ou je glisse des épinards. Mais au final le palais est habitué, donc elle aime bien.
Donc ouais, des fruits, c'est marrant, j'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Enfin, c'est ma mère qui fait ça d'ailleurs.
Aujourd'hui, si tu vas voir un naturopathe, moi je me forme en naturopathie.
D'accord.
Pour justement étayer un peu mes propos. On va te dire que la base pour les enfants, déjà, c'est de caler les fruits au bon moment, quoi. Parce que c'est le meilleur moyen aussi de leur créer des faiblesses. Ils seront moins malades en hiver si ils ont plus d'énergie et si leur digestion est facilitée. Parce que la digestion difficile, ça pompe énormément d'énergie au corps. Donc pendant que le corps se dédie à digérer, il se dédie pas à se défendre des virus. Donc ma fille, je touche du bois, en hiver, elle est quasiment jamais malade. Elle a pas la gouttonnée, elle tousse pas. Après, ça peut arriver un rhume, hein, et puis il faut... C'est comme ça. Mais il y a beaucoup de solutions pour que les enfants aient moins de rhinopharyngite, de bronches tout le temps encombrées. Ça, c'est souvent lié à des mauvaises digestions.
C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ton projet pour qu'on comprenne un peu mieux, enfin tes box, enfin en quoi ça consiste, et puis ta formation naturopathique, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu as envie de devenir naturopathe libéral, quels sont tes projets?
Ouais. Alors du coup, j'ai lancé le blog Curcuma Box suite au traitement, parce que au début des traitements, moins on m'en disait, mieux je me portais, je voulais rien savoir.
D'accord.
J'étais terrorisée et je restais avec mes œillères, sauf qu'à un moment donné, je suis allée voir une naturopathe sur les conseils d'une amie. Et là, j'ai eu ma première révélation, en fait. Je me suis dit, j'ai quand même les clés en main, quoi. Je suis pas juste une hôte passive, là, de ma maladie. Je peux agir, quoi. Je peux faire quelque chose. Et après, la machine s'est mise en branle. J'ai pas arrêté. J'ai lu énormément de bouquins sur la santé, sur la maladie. Et j'ai commencé la formation de naturopathie. Donc, pas pour devenir naturopathe, mais plus pour ajouter une corde à mon arc, quoi. Ouais. C'est bien de savoir de quoi on parle. Et donc le blog a eu quand même un petit succès, puisque je sentais bien que les gens étaient en demande aussi, parce que tu sais pas, t'es pris dans un protocole, ou t'es malade, ou même t'es en bonne santé, t'as envie de le rester, parce que c'est un blog général, hein, c'est pas dédié à la maladie, c'est vraiment...
C'est pas que pour les malades.
Non, c'est la prévention. Et donc il y a eu un bon écho, et de là, j'ai voulu un peu synthétiser les conseils du blog sous forme de box. Donc j'ai édité des petits livrets... que je glisse dans mes box, et j'ai glissé aussi des petits paquets de granola, et là le succès du granola était assez dingue. Donc aujourd'hui
c'est des granolas que tu fais toi-même?
C'est des granolas maison, ouais.
D'accord.
Donc, qui sont bio, vegan, sans gluten, qui sont cuits à basse température pour préserver le maximum de bienfaits des aliments, et qui sont à base de curcuma. Et ben voilà, ça a été le carton. Donc tu te lances dans un truc, puis finalement le virage part dans l'autre sens, et c'est plutôt très intéressant. Donc aujourd'hui je produis, je commence à produire pas mal de granola
là. Donc tu fais ça dans ta cuisine là?
Pour l'instant je fais ça dans ma cuisine, mais là c'est plus possible.
Ah ouais?
Bah là ma fille me dit, maman, encore du granola dans la cuisine. Ouais non, faut que je passe la seconde là, il me faut un labo, il me faut une cuisine.
Du coup ton projet c'est quoi? C'est de diversifier les types de granola que tu fais?
Bah du coup sur Insta j'ai des filles qui me suivent depuis un petit moment. Là dernièrement j'ai fait une petite réunion de consommatrices, c'était hyper intéressant, pour sortir les nouvelles gammes.
D'accord.
Donc il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et puis dès septembre il y aura plein de choses, donc des nouvelles gammes de granola.
D'accord.
J'aimerais... trouver une cuisine pour répondre à la demande, parce qu'aujourd'hui je rame un peu derrière les commandes.
D'accord.
En vrai. Donc c'est plutôt bien,
c'est plutôt bon signe,
c'est que ça fonctionne. Ouais. Mais c'est dur. Puis j'aimerais répondre aux demandes des boutiques aussi, pour pouvoir distribuer dans les boutiques. Et puis après il y a d'autres box, une box pour enfants notamment, où je voudrais écrire un livret avec une illustratrice pour leur donner les bases sur un fond ludique, normal. Et je me dis que c'est là où tout se joue en fait. Donc si tu sais déjà à cet âge-là comment fonctionne ton corps, tu sais comment lui donner le bon carburant. Ça, c'est important.
En fait, c'est des box avec abonnement, c'est ça ou...
Non, pas du tout. En fait, c'est des petits coffrets que je crée et les gens prennent...
C'est en édition limitée. Et
C'est ça.
Ouais, d'accord.
C'est ça. Et puis, ça se renouvelle, voilà. Et puis, j'en ai d'autres à venir. Et puis peut-être un podcast aussi à la rentrée, ça ira.
On va suivre ça de très près. Et du coup, le blog, tu continues aussi?
Bah le blog, malheureusement, là, j'ai plus le temps d'écrire. C'est en fait le podcast, je me dis que c'est bien comme format, parce que
c'est moi qui vais te dire le contraire,
n'est-ce pas? Donc c'est un peu le format audio du blog, quoi. C'est plutôt intéressant.
Ouais.
Donc je me dis que ça peut être une bonne continuité. Le blog, il a de la matière, donc les gens peuvent aller le consulter, ils peuvent trouver déjà plusieurs réponses à leurs questions.
Des recettes aussi.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Il y a un livret que j'ai fait de recettes sans produits laitiers, sans gluten, pour montrer que c'est pas dur, quoi.
C'est pas si compliqué.
Non.
D'accord.
Ouais.
je le consulterai avec plaisir. C'est vrai que des fois, quand on n'est pas encore plongé dedans, on se dit, ça a l'air... J'ai l'impression qu'il faut plein d'ingrédients différents.
Bah, il faut automatiquement que tu renouvelles ton épicerie. Ouais. Mais bon, à la base, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Hein. Je mangeais de façon banale, classique, mais je m'étais pas du tout renseignée sur la healthy food. Sauf que finalement, tu vois, hein, 2 ans après, on me considère comme une experte. Alors qu'en vrai, je suis la personne lambda qui s'est intéressée un peu au sujet. Ouais. Quoi. Ça va vite. Dès que tu mets un petit pied dedans, là, hop, après, tout le corps est pris. Puis tu fais tes courses et puis plus rien ne te paraît incompréhensible. Alors que la première fois que tu rentres dans une boutique bio, tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire.
Et est-ce que, du coup, tu aurais des inspirations à partager avec nous qui t'ont aidé justement dans ton rôle de maman? Ça peut être des livres que tu as lus, des personnes que tu as suivies, des choses que tu as regardées.
J'ai lu tous ces bouquins sur la santé. Il y a des livres qui m'ont attiré l'attention, particulièrement sur les enfants, dont un livre qui s'appelle Le précis pédiatrique de naturopathie.
D'accord.
De Robert Masson. Et en fait, grâce à ce livre, moi, je soigne les maux de ma fille tout l'hiver. Donc, c'est des traitements homéopathiques, naturels, des préparations de suppositoires à faire en pharmacie. Et ça te permet de... Sans passer forcément par la case traitement lourd, tu peux traiter facilement des petits rhumes du quotidien.
Et c'est efficace en fait. C'est sur des petites maladies comme ça.
Sur des petites maladies. Après, on joue pas aux chimistes. Hein.
Ouais.
Si l'enfant a 42 fièvres pendant 2 jours, c'est faut faire quelque chose quand même. Même si on dit aussi que la fièvre c'est un processus naturel du corps. Hein. Faut pas le laisser déborder. Et c'est normal d'aller consulter un médecin pour être sûr. Mais faut pas paniquer outre mesure non plus. Et tous les petits maux, les petits rhumes du quotidien. Peuvent être canalisés.
Mais j'imagine que tu as aussi des petites choses là-dedans que tu peux lui donner en prévention.
Oui, bien sûr. La chose que je donne, moi, à ma fille, pratiquement toute l'année, mais surtout de septembre à avril, c'est la vitamine D. Parce que, à Paris, mais même tous les pays au-dessus de Rome n'ont pas un rayonnement solaire suffisant pour t'apporter de la vitamine D pendant l'hiver. Donc, c'est important de se complémenter. Mais là, je vous laisse vous rapprocher de médecins et naturopathes compétents.
D'accord. Pour finir, la question que je pose habituellement dans le podcast, c'est est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu qu'on te dise avant d'être maman ?
C'est-à-dire que c'est un apprentissage au jour le jour, donc oui, ouais. Tu te dis, tous les enfants sont différents en plus, mais quand tu passes du rire aux larmes et que tu dois gérer des crises et que tu te retrouves là, sur place, dépité en te disant « non mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là ?» Oui, t'aurais aimé qu'on te le dise, mais tu le savais en réalité, que ça allait pas être rose tous les jours.
Ouais.
Donc non, c'est un apprentissage au quotidien. Je sais pas si réellement on peut... peut donner des clés pour décoder tout ça avant. Quoi.
Une adaptation consciente.
C'est ça.
D'accord. Écoute, merci beaucoup Cindy pour cette discussion.
Merci à toi.
Donc si on veut te retrouver, donc c'est sur Instagram, @curcumabox.
C'est ça.
Et sur ton site.
Sur le site, pareil. Curcumabox.
Ok.
.fr.com, il y a les deux.
Il y a les deux. D'accord.
Il y a le blog et il y a l'e-shop.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @JolieBump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. À très bientôt.